Ici, Moscou. Gros plan sur le Maghreb.
Aujourd'hui, l'animateur permanent de cette rubrique, notre commentateur Igor Yazon, vous propose d'écouter la note « La Tunisie, l'opposition laïque exige le changement du gouvernement ». Et comme toujours, à la fin du programme, il y aura un exposé sommaire de certains événements dans la région. Ce programme est disponible aussi sur le site internet de la Voix de la Russie, www.french.ruvr.ru. Vendredi, le 25 octobre, dans la capitale de la Tunisie, a enfin pris le départ le dialogue national entre le gouvernement et l'opposition laïque sur la sortie du pays de la crise politique qui se prolonge. Elle dure depuis plus de 3 mois et encore jeudi, selon la chaîne de télévision interarabe Al Arabiya, le premier ministre Ali Larayed a déclaré catégoriquement « Nous répétons que nous sommes fidèles au principe du renoncement au pouvoir, conformément aux étapes indiquées dans la feuille de route. Nous ne nous soumettrons à personne et à rien, sauf aux intérêts de notre pays. » Fin de citation. L'opposition que le syndicat influent des policiers a menacé au dernier moment de soutenir a pris le dessus quand même et a obligé le gouvernement à engager des négociations. Selon la feuille de route approuvée auparavant par les partis, pendant la première semaine, les participants du dialogue devaient choisir la candidature du premier ministre du pays, un sans-parti. Puis, en 15 jours, les partis formeront le nouveau gouvernement, après quoi le cabinet actuel partira en démission. Le monde entier nous regarde et attend qu'on réussisse. Et nous avons enregistré un premier succès avec le lancement officiel du dialogue national, a déclaré Hussein Abbassi, le secrétaire général du syndicat UGTT et le principal médiateur de la crise. Je veux rassurer le peuple tunisien, la crise politique va être résolue, a-t-il dit. La manifestation grandiose de l'opposition du 23 octobre dans la capitale du pays est devenue une sorte d'apothéose de l'opposition. Nikolai Sologubovski, le journaliste russe et son collègue, le photojournaliste connu tunisien Noureddine Sassi, en ont parlé à notre commentateur dans l'interview par téléphone de la Tunisie.
Le 23 octobre, dans la capitale de la Tunisie, une grande manifestation de protestation a été organisée sur l'appel des syndicats et de l'opposition laïque. Des milliers de Tunisiens ont défilé dans les rues de Tunis pour réclamer le départ du premier ministre islamiste Ali Larayed. C'est la condition sine qua non pour l'opposition au démarrage du dialogue national. Et aussi le 23 octobre. Sur le front sécuritaire en Tunisie, la situation s'est dégradée. Tout le monde connaît en Tunisie la petite ville Sidi Bouzid où les événements tragiques de 2010 ont eu lieu. Les événements qui ont conduit à des grandes manifestations populaires contre le gouvernement du président Ben Ali et à sa démission. Ainsi, c'est dans les environs de cette ville, Sidi Bouzid, un combat meurtrier entre les bandits des groupes terroristes liés à Al-Qaïda et la police tunisienne a eu lieu. 8 agents de la force publique ont été tués. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Les syndicats ont appelé à une grève générale dans la région de Sidi Bouzid. Les nouveaux combats risquent cependant de compliquer encore la position des islamistes d'Ennahda et de leurs alliés qui se trouvent au pouvoir actuellement. En Tunisie. Ils sont accusés par l'opposition d'avoir fait preuve de laxisme vis-à-vis de la mouvance djihadiste à qui a été attribué les assassinats du député Mohamed Brahmi en juillet et d'un autre leader de l'opposition, Chokri Belaïd, en février. La semaine dernière, déjà, 2 gendarmes avaient été tués dans la région de Béja, à 70 km de Tunis. Les autorités ont ensuite annoncé la mort de 9 terroristes. dans une opération militaire. Mais ces combats aussi ont déclenché une fronde au sein des forces de l'ordre. Des dizaines de militants des syndicats de policiers avaient chassé le premier ministre d'une cérémonie à la mémoire des gendarmes tués. 23 octobre, le début du dialogue national entre les islamistes au pouvoir en Tunisie et l'opposition n'a pas eu lieu comme c'était annoncé. Le démarrage du dialogue national censé sortir la Tunisie de la crise politique a été reporté au 25 octobre. La feuille de route élaborée déjà prévoit pourtant qu'un nouveau premier ministre indépendant soit désigné par l'ensemble de la classe politique une semaine après le début du dialogue national. Aussi, on prévoit par cette feuille de route qu'un cabinet de technocrates soit formé dans les deux semaines qui suivent. Mais le dialogue n'a pas été commencé. Alors pourquoi les Tunisiens protestent? Pourquoi font-ils appel à la démission du gouvernement? Selon nos rencontres avec les Tunisiens, selon les discussions chaudes et animées à la télévision et dans les journaux tunisiens, on peut tirer la conclusion suivante. Le gouvernement des islamistes ne pouvait pas faire des changements positifs dans l'économie de la Tunisie. Et bien sûr, il y en a d'autres conclusions, mais je voudrais attirer votre attention justement sur cela. C'est pourquoi doit être formé un gouvernement provisoire. Et le but de ce nouveau gouvernement, d'adopter une nouvelle constitution et de faire des élections générales. Nous, les journalistes de divers pays, avons assisté dans la manifestation du 23 octobre dans la capitale. Elle s'est déroulée calmement. Bien sûr, les discussions chaudes et animées étaient partout, mais pacifiquement. Et suivant, moi je souligne, les règles de la démocratie. Je passe la parole à mon confrère, au Tunisien, un grand journaliste, Noureddine Sassi.
Alors bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les antennes de la Voix de la Russie dans cette émission?
Ben, je ne dis pas grand-chose pour que dit mon ami, déjà dit tout lui, mais là c'est rien pour... Mais juste hier, vraiment, un journée spéciale pour tous nous, les Tunisiens, vraiment, est passé bien, l'ambiance des gens des démocraties. Une journée spéciale pour nous, les Tunisiens. Mais j'espère, pour le gouvernement, y compris, qu'il est tous les Tunisiens et les Tunisiennes, et c'est le moment pour le changement pour le gouvernement. Nous avons besoin d'un changement. Il y a des gens, il y a des femmes hier qui pleuraient sur la route pour le changement. Vraiment, dans une crise de la Tunisie, beaucoup. Il y a besoin l'aide des Tunisiens, bien sûr, pas de l'étranger, pour ce changement.
Vous disiez tout à l'heure que tous les Tunisiens pour le changement, mais il y a d'autres factions de votre société qui ne veulent pas le changement, qui le soutiennent, le gouvernement islamique.
Bien sûr. Il y a des autres sociétés, bien sûr, pour donner le soutien. Mais le problème en Tunisie, c'est le gouvernement. C'est la première chose, c'est le gouvernement. S'il change le gouvernement, ça change tout. Il faut changer parce que les gens arrivent dans un virage très dangereux. Il ne faut pas faire un marche arrière pour l'instant. Plus que 85% avec le changement, ni pas avec les djihadistes, avec les islamistes. Tout le monde n'est pas envie des islamistes ici.
Mais quand même, l'impasse politique se poursuit. Comment trouver les solutions? Ça ne peut pas durer tout le temps. Hein?
Bien sûr. Mon opinion, c'est le changement pour tout bon. Si c'est le gouvernement des islamistes qu'il faut partir, il y a des gens, des professionnels et beaucoup d'expérience, et surtout avec l'ancien régime qui travaille avec Ben Ali et Bourguiba, ils connaissent beaucoup de choses mieux que ce gouvernement, parce qu'il manque d'expérience, ce gouvernement. Il y a la plupart des ministres, il y a passé des années et des années en prison. Et il manque d'expérience, bien sûr, par rapport à les autres. Le problème, les islamistes qui prennent le pouvoir maintenant, c'est eux, ils ne lâchent pas la place. C'est ça le problème. Les pays sont dans un grand problème de crise politique et des crises partout, même pour les voisins. Exemple, les voisins libyens ou algériens. Il y a beaucoup de problèmes entre les deux pays.
Je sais que la frontière entre la Tunisie et la Libye est fermée.
Elle est fermée parce qu'il y a beaucoup de gens terroristes qui passent, qui font beaucoup de trafic, et surtout avec les trucs de choses, mais, comment dire, pour le travail, pour le parti de Qaïda, pas pour la Tunisie.
Monsieur Nourdine, la Tunisie n'est pas seule dans la communauté maghrébine. Et vos voisins, ils font quelques efforts pour vous aider, pour trouver les solutions.
Oui, l'Algérie, oui, bien sûr, fait des aides, bien la Tunisie, bien sûr, avec l'expérience qui est passée, ça fait des années avec le terrorisme, surtout les militaires, ils donnent beaucoup d'aide pour les Tunisiens. Mais pour les Libyens, sinon, c'est ouvert maintenant, surtout pour le truc de l'arme et machin, et ça passe tout. Ça passe tout en la Tunisie.
Et
ça veut dire un marché de l'arme. Mais juste pour le TC bien, surtout pour la Tunisie, maintenant, la situation, ça va pas du tout.
L'économie
et politique, les deux. C'est déjà le directeur général de la Banque Centrale, il a annoncé avant-hier, et un truc vraiment arrive à zéro.
Monsieur Nourdine, je voudrais exprimer quand même le souhait, parce que j'ai visité la Tunisie, c'est votre pays magnifique, et le plein d'hospitalité, et voilà.
Oui, mais nous, tous les peuples tunisiens, aspirons pour l'avenir, bien sûr, mais pour le sens, c'est bien, pas le sens avec les islamistes et tout.
Bon, merci. Nicolas, est-ce qu'il peut faire les conclusions?
Oui, au revoir et merci bien.
Alors, on espère, la majorité des Tunisiens espèrent qu'il y aura quand même le début du dialogue, il y aura un nouveau gouvernement, une nouvelle constitution, les élections. Et que dans le gouvernement, il y aura des gens compétents, professionnels, qui ont la confiance des électeurs. Ainsi, on peut prévoir quand même que malgré tous les obstacles, les Tunisiens vont trouver le chemin vers le progrès. Et bien sûr, il y a un danger qui consolide maintenant presque tous les Tunisiens. C'est un danger qui vient d'Al-Qaïda, qui vient de la Libye occupée par l'Al-Qaïda. Et si, s'il s'agit des problèmes antérieurs, bien sûr, les Tunisiens vont décider eux-mêmes, mais il y a un problème extérieur, c'est le terrorisme international. Et on espère que ce problème sera résolu avec la participation de tous les pays qui sont sincèrement contre le terrorisme, qui sont contre les armes qu'on envoie aux terroristes, qui sont contre les mercenaires, que partout dans beaucoup de pays du monde, on cherche ces mercenaires et ensuite on les envoie, ou bien en Syrie, ou bien dans un autre pays, comme par exemple, encore une fois, au Mali, on a eu justement des embuscades, on a eu des combats avec les terroristes. Et bien sûr, nous connaissons bien, et tout le monde connaît déjà, qu'il y a les camps où on prépare les terroristes, et contre l'Europe aussi, ce sont les camps qui se trouvent en Libye. Alors, il y a un danger pour tous, et contre ce danger, contre ce fléau sous les drapeaux noirs, nous, les gens de bonne volonté, doivent lutter ensemble. Laissons aux Tunisiens ce qu'appartient aux Tunisiens. Et nous allons envoyer pour votre voix de la Russie et les photos. Et vous serez même étonné que la démonstration, la manifestation, c'était quand même une fête. C'était les Tunisiens, ils ont exprimé un optimisme extraordinaire. Ils savent bien qu'ils peuvent résoudre tout. Mais, encore une fois, laissons aux Tunisiens les affaires tunisien. Il y a un petit détail, ça c'est très important. C'était une vraie coïncidence. Le 23, trois grands bateaux qui font la croisière en Méditerranée sont venus ici à Tunis, à la Goulette. C'était 3000 touristes étrangers qui sont venus avec leur bus de faire des excursions, Carthage, Musée Bardo, etc., etc. Et par hasard, ils ont participé aussi à cette manifestation grandiose dans la capitale qui a eu lieu le 23 octobre et dont les manifestants ont exigé la démission du gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il faut faire pour la Tunisie.
C'était l'entretien de Nikolai Sologubovski, journaliste russe, et son collègue, le photojournaliste connu tunisien, Nureddine Sassi. Ce sujet a été préparé par notre commentateur Igor Yazon.
Chers auditeurs, merci de suivre la rubrique de La Voix de la Russie, Maghreb, panorama de la semaine. Nous vous proposons d'écouter un bref aperçu des événements de la région de Maghreb. La Russie et l'Algérie vont trouver de nouvelles formes de coopération militaire et technique. Le chef de l'état-major général des forces armées russes, le premier vice-ministre de la Défense, le général d'armée Valéry Gerasimov, a fait cette déclaration mercredi lors des entretiens avec le vice-ministre algérien de la Défense, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire d'Algérie, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. L'Algérie est un partenaire de longue date de la Russie, a indiqué le général Gerasimov. Notre coopération bilatérale a une riche histoire. Nous apprécions beaucoup la nature amicale traditionnelle de nos relations. Nous avons tous les moyens pour les consolider davantage, a souligné le général, avant d'indiquer que le niveau de la coopération russo-algérienne militaire et technique en est la preuve. Le général Gerasimov a en outre proposé d'examiner les sujets d'actualité concernant la sécurité internationale et régionale, de confronter les positions en matière d'évaluation de la situation dans la zone Sahara Sahel, des perspectives du règlement de la crise syrienne et du développement de la situation en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Pour sa part, le général Ahmed Gaïd Salah a souligné que l'Algérie et la Russie bénéficiaient d'un excellent niveau des relations. Les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire et technique, évoluent sans cesse pour arriver à un niveau différent, celui du partenariat stratégique, ce qui a été officiellement confirmé en 2006 au cours de la visite du président Vladimir Poutine en Algérie, a souligné le général algérien. Il faut accroître la surveillance aux frontières et renforcer l'agence européenne Frontex, a affirmé mercredi à Barcelone le chef de la diplomatie française Laurent Fabius, n'écartant pas l'idée défendue par l'Italie d'une task force. Monsieur Fabius s'exprimait à la veille du sommet européen qui doit traiter de l'immigration après les naufrages de clandestins qui ont fait environ 400 morts début octobre près de l'île italienne de Lampedusa. La France arrive avec des propositions précises et j'espère qu'un maximum d'entre elles seront adoptées, a-t-il dit sans plus de précision. La Méditerranée est devenue une espèce de cimetière à ciel ouvert, ce qui est dramatique, a déclaré à la presse le ministre au cours du forum économique du dialogue 5+5 auquel participaient les ministres ou vice-ministres des affaires étrangères de 10 pays, Espagne, France, Italie, Malte, Portugal, plus Algérie, Libye, Maroc, Tunisie, Mauritanie, ayant tous les côtes méditerranéennes, à l'exception du Portugal et de la Mauritanie. L'OTAN a décidé lundi d'envoyer des conseillers en Libye afin d'aider Tripoli à renforcer ses institutions de défense dans un contexte d'insécurité préoccupante. L'Alliance Atlantique a décidé de répondre favorablement à la demande du Premier ministre libyen relative à la fourniture par l'OTAN des conseils sur la mise en place d'institutions de défense, annoncé son secrétaire général Anders Fogh Rasmussen dans un communiqué. Cette requête avait été faite en juin par le gouvernement de Tripoli, aux prises avec des difficultés croissantes pour assurer la sécurité, près de 2 ans après l'opération aérienne conduite par l'OTAN, ayant conduit à la chute du régime de Kadhafi. L'OTAN mettra sur pied une petite équipe consultative qui se rendra régulièrement en Libye pour conseiller les autorités, a précisé un responsable de l'Alliance basé à Bruxelles. Monsieur Rasmussen avait qualifié d'inquiétante la situation en Libye, à la suite de l'enlèvement du Premier ministre, Ali Zeidan, pendant quelques heures le 10 octobre. Les services de sécurité algériens ont lancé une vaste opération contre des réseaux soupçonnés de recruter les djihadistes pour combattre en Syrie, a rapporté le quotidien En-Nahar. Des services de sécurité ont lancé une vaste opération visant des Syriens établis en Algérie, soupçonnés d'avoir des liens avec les milieux djihadistes en Syrie, en Libye et en Tunisie, a indiqué le journal arabophone. Cette opération a été lancée alors que les informations font état du départ récent de plus de 15 jeunes âgés de 20 à 25 ans en Turquie, d'où ils ont rejoint la Syrie, a précisé la même source. Ces jeunes, originaires des quartiers populaires d'Alger, ont suivi un entraînement au maniement des armes pour devenir des combattants dans les rangs du front Al-Nusra, affilié à Al-Qaïda, selon le journal. Interrogé par l'AFP, le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères, Amar Belani, a dit n'avoir aucun élément à ce sujet. Selon le ministère algérien de l'Intérieur, 12 000 Syriens fuyant les violences dans leur pays étaient venus au début de l'été 2012 en Algérie, pays pour lequel ils n'ont pas besoin de visa. Safia Farkash, veuve du dictateur libyen déchu Muammar Kadhafi, a lancé un appel à l'ONU et à l'Union européenne pour l'aider à retrouver les corps de son mari et de son fils dans une lettre publiée par la radio russe La Voix de la Russie. Muammar Kadhafi et son fils Mouattassim ont été capturés et tués par des ex-rebelles le 20 octobre 2011 à Syrie, dans le centre du pays. Leur corps avait été exposé au public à Misrata, à 214 km à l'est de Tripoli, avant d'être enterré dans un endroit tenu secret.